l'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Kush, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayad. Mm-hmm. Tu vois ? 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire, elle a commencé sur un aigri, on est en train de ramer en sueur. Non!
Le sujet du jour, tu dois t'en douter, défraie la chronique. Il s'agit de Maître Gims et de ses déclarations qui semblent telles, effraient plus que n'interrogent. On est allé jusqu'à questionner son intelligence et sa bonne disposition mentale. Une entreprise notoirement connue dont la spécialité est de vendre du courant plus cher qu'il ne lui a coûté s'est permis de faire une publicité qui, en tout cas plusieurs publicités, qui tourne en dérision la star du micro, détenteur de 4 disques de platine en Belgique, en Suisse et au Danemark, pour ne citer que ces pays-là. On peut ne pas être d'accord avec sa maîtrise de l'histoire, mais Juna est un maître du mic. Un peu de respect, ce serait trop demandé. Mais regardez ceci. Au-delà de tout ce que Maître Gims a soulevé comme question qui appelle notre attention, en tout cas qui devrait appeler notre attention, il l'a dit, et je cite, « Le Congo a été dans un tournant décisif à cause de sa richesse. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme s'il jouait aux Sims ?» dit-il sous un ton agacé. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Il faut que ça cesse. On ne peut pas tuer les Congolais comme si c'était rien. Aujourd'hui, le coltan qui permet de faire des écrans d'ordinateur, si ce coin du Kivu, en tout cas ce coin du pays, le Kivu, où il y a toutes ces richesses, si ce n'est plus les rebelles qui ont la main dessus et ça devient un truc national, où c'est géré par l'État, les prix auxquels ils touchent le coltan, ça va augmenter. Une fois que ça va être géré par l'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Fin de citation. Le Congo, mes chers, pour ma part, ces déclarations sont plus importantes et le dire est un doux euphémisme que de savoir s'il y avait, oui ou non, de l'électricité dans les pyramides. Je soupçonne donc un bashing volontaire en vue d'éteindre la question essentielle. Et la question essentielle est, pourquoi y a-t-il encore le génocide au Congo, malgré les interpellations de personnes plus influentes que Maître Gims, telles que notamment le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de médecine. Pourquoi ? Eh bien, chers frères et sœurs en panafricanisme, sachez que 10 millions de personnes ont été tuées dans ce pays à ce jour. C'est autant que la population du Danemark ou de la Belgique. C'est comme si, du jour au lendemain, on avait rasé ce pays. Mais revenons au sujet. Car oui, le sujet du jour, ce n'est pas le... Le sujet du jour, c'est y avait-il, oui ou non, de l'électricité dans les pyramides ? Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast, ton manuel audio dédié à l'histoire, la culture, la politique et la géopolitique du grand continent. Ce podcast, eh bien, sert à valoriser ce que le grand continent a de meilleur. C'est Arleno qui te parle, commandant de bord de cette mission. Merci à ceux qui voyagent depuis le début avec nous. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre également. Sachez que votre soutien est fortement apprécié. Nous publions notre actualité sur Twitter, Instagram. N'hésitez donc pas à nous y suivre. Nous sommes en 2023 et l'Afrique, c'est toujours chic. Avant d'embarquer, je te propose, comme toujours, un petit apéritif depuis le salon VIP. Et oui, ici, on voyage en business. Posons la question à une tête crépue, quel est son avis ? Qu'est-ce qu'il pense de l'électricité ? Allez, je vous laisse écouter.
Dis-moi, pour toi, c'est quoi l'électricité ?
C'est l'énergie.
C'est quoi ?
C'est l'énergie qui fait fonctionner les objets.
Ah ouais? Et ça vient d'où cette énergie?
Bien, de machines qui font de l'électricité.
Ah bon? C'est les machines qui font de l'électricité? Pour toi? D'accord, très intéressant. Et ces machines qui font de l'électricité là, comment on fait pour mettre l'électricité dans les machines?
Mais non, c'est alimenté avec les quatre éléments.
Avec les quatre éléments? Lesquels? C'est quoi ces quatre éléments?
L'eau, l'air, la terre et le feu.
Donc pour toi, c'est tout ça qui crée l'énergie? L'énergie, c'est ça? L'énergie électrique?
Mais par exemple, il y a les barrages. Avec de l'eau, ça fait de l'électricité. Le vent, avec de l'eau. Le vent, avec les éoliennes, ça fait de l'électricité. Le feu, avec les panneaux solaires, ça fait de l'électricité.
Intéressant.
Et la terre, avec les ondes de la terre, ils font de l'électricité.
Les ondes de la terre peuvent faire de l'électricité. Pourtant, la Terre a 7 milliards d'années, donc ça veut dire que si les ondes de la Terre sont capables de faire de l'électricité, ça veut dire que l'électricité existe depuis au moins avant les pharaons. Possible ou pas? L'issue de la conversation ne fait aucun doute. Afin de te bien situer, on pourrait aisément croire que les jeunes de nos jours ne s'intéressent guère à rien d'autre que leur téléphone, que nenni. On pourrait croire qu'ils sont guère attentifs à leur environnement, que nenni. Voici la démonstration que leur cerveau pétille et déborde d'imagination. Ils ont tout simplement besoin d'être alimentés par des visions et perspectives valorisantes. C'est ce que nous faisons dans ce podcast pour valoriser ce que nous avons de meilleur. C'est donc l'occasion pour moi de t'inviter à la journée des enfants afro-descendants et africains, JD2A, destinée à la famille afro, plus généralement, qui se tiendra à Paris le 17 juin prochain. Pour plus de détails, je partage régulièrement l'actualité de cette association dans ma bio et aussi sur la page Instagram. N'hésitez pas à y faire un tour. N'hésitez pas à vous y inscrire et à y faire un tour. Cela est fortement recommandé par le guide du Petit Panafricain. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de cette association sur leur page internet, notamment Ligue Panafricaine Umoja sur Facebook, lp-umoja.com sur internet. Ladies and gentlemen, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Turbulences sont à prévoir, alors veillez à rester attaché. L'enfant qu'on a écouté dit que la Terre produit des ondes qui peuvent se transformer en électricité. Ainsi, si on peut capter les ondes magnétiques pour les transformer en énergie, comme le fait le docteur Maxwell Chikumbutso, ingénieur autodidacte zimbabwéen, qui a réussi à transformer les ondes électromagnétiques pour en faire de l'énergie sans fil. Si on en croit en tout cas ces réalisations, on peut donc dire que l'électricité est bien plus ancienne que ce qui nous est dit. Disons-le une fois pour toutes, l'Égypte et l'Afrique ne sont qu'un même et unique continent. Un seul et même bloc de pierre. Dès lors, l'Égypte c'est l'Afrique et il ne saurait donc subsister de doute sur l'origine de ces populations. Mieux, certaines théories font même remonter l'Égypte technologique, je dis bien technologique, à plus de 10 000 ans. C'est intéressant. Ces théories nous ont informés de ce que la technologie avancée des automates existait bien avant. Autant dire que l'intelligence artificielle, bah oui, lorsqu'on parle d'automates, on fait forcément allusion à de l'intelligence artificielle, existait bien avant. Allô? Mais bon. Ce ne sont que des théories. Dès lors, tout s'éclaircit, les masques tombent et on peut apercevoir très nettement ceci. À combien de millénaires remonte l'apparition de la Grèce hellène? Ça, c'est une question. Mais ne polémiquons pas davantage, parlons d'un symbole que vous connaissez certainement bien. Et je fais un clin d'œil aux kémites du monde entier. Je parlais de la croix ou de la clé en un symbole récurrent dans toute la civilisation égyptienne. Ce qui m'interpelle davantage, c'est que ce symbole est omniprésent sur près de 5000 ans d'histoire. Et à côté de l'ankh, très souvent, on peut apercevoir autre chose qu'est le djed. Le djed est présent un peu partout, aussi dans le livre des morts du papyrus Ani II. Donc je vous recommande d'acheter le livre des morts si vous voulez avoir la représentation du djed. Regardez attentivement, regardez bien, regardez très très bien. Cette fresque fait penser à une ampoule et un socle l'alimentant. Bref, une diode. L'ankh est monté sur un socle, qui est le djed pour être plus précis. Ainsi,
Gugrier, en tout cas Guy Gruyère, ancien chef auto chez IBM, passionné d'histoire, a émis l'hypothèse que l'encre serait une diode. Ok. Bon, lui c'est un expert, contrairement à Maître Gims, dont le seul péché a été certainement d'être un artiste sans éducation significative et amuseur pour peut-être jeune public. Ce qui me fait penser à la citation de Cheikh Anta Diop relevant que « On vous nie en tant qu'être culturel, on vous nie en tant qu'être moral, on ferme les yeux et on ne voit pas les évidences. » L'idée que Gims ait pu être autre chose qu'un chanteur, rappeur issu de la banlieue leur est réfractaire, il faut le dire. Ils sont réfractaires à cette idée, d'où son bashing. Dès lors, il lui est interdit de s'exprimer, d'exprimer son avis, son point de vue, ses perceptions, sans que les chiens de garde ne lui tombent dessus. Je délivre donc un carton rouge à tous ces censeurs de la liberté de parole et de pensée. Mais avant de continuer, je vous propose un petit extrait d'un jeune chercheur qui a fait des choses intéressantes. Ladies and gentlemen, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous allons encore traverser des zones de turbulence, alors veillez à rester bien assis, ceinture bouclée. Ce que l'historiographie évite de mentionner, c'est souvent le parcours d'hommes qui ont voyagé en Égypte et qui ont enseigné, qui ont enseigné leurs découvertes dans des écoles une fois revenus dans leur pays d'origine. On a pu voir la naissance d'écoles platoniciennes, aristotéliciennes, enfin en référence à Platon et Aristote par exemple. Je prends un personnage, celle que Jean Blic, qui a écrit une biographie sur Pythagore. Oui, il faut savoir que Pythagore n'a pas écrit. En tout cas, ses écrits n'ont pas survécu. Ce sont d'autres personnes qui ont écrit sur Pythagore. Et ce Jean Blic, je referme la parenthèse, ce Jean Blic a aussi écrit vers 320 Mystères d'Égypte, dans lequel il fait des révélations intéressantes dont nous allons écouter un petit extrait.
On ne peut pas non plus s'empêcher de penser à ce qui ressemble à des ampoules dans les cryptes souterraines du temple de Dendera. On pourra donc chercher des éléments dans les textes anciens d'auteurs qui n'avaient aucun intérêt à mentir ou à fabuler à ce sujet. Et pour ce faire, nous allons reprendre un exemple de Jean Blic. Dans « Les mystères des Égyptiens, des Chaldéens et des Assyriens », Jean Blic nous dit ceci. « Nous sommes entrés dans une chambre, et à cet instant, elle fut illuminée automatiquement par un tube aussi haut qu'un homme. À mesure que nous nous rapprochions du tube, il éclairait de plus en plus fort. »
Allô? Bon, là, ce sont des découvertes de chercheurs qui ont voyagé, qui sont contemporains d'une époque où l'Égypte avait pratiquement, on va dire, perdu son prestige. Donc, ils ont pu visiter des vestiges, des espaces. Donc, ils nous ont partagé l'expérience, surtout qu'ils n'avaient aucun intérêt à mentir sur ce qu'ils ont vu à cette époque. Maintenant que ça a été dit, vous avez écouté ce petit extrait, revenons à une information, on va dire, peu connue, dont la réponse tombe sous le sens, hein, mais il faut savoir faire un petit effort de réflexion. Supposons ceci, que les pyramides aient été un tombeau. C'est une idée fort répandue. Un tombeau suppose donc une partie haute et une partie basse, on est d'accord. Cette partie basse est généralement isolé du soleil, en tout cas des rayons du soleil, n'est-ce pas? En ce qui concerne les pyramides, l'intérieur y est hermétique aux rayons du soleil, à moins d'activer un dispositif particulier lorsque vous pénétrez les pyramides. En tout cas, c'est ce que Hollywood nous a présenté pour ceux qui ont été. L'intérieur des tombeaux y est hermétique au soleil. Ça, c'est un second point. Sachant également qu'il existe dans chaque pyramide un tombeau, et dans chaque tombeau, des chambres funéraires qui sont davantage enfouies. Dès lors, une question appelle mon attention. Et je vous demande également de faire cet effort-là avec moi. À savoir que, comment faisait-il, en tout cas, comment faisait... les Égyptiens de l'époque pour se déplacer à travers des espaces sinueux, pour décorer l'intérieur des tombeaux, sachant que quand vous prenez par exemple une pyramide comme celle du pharaon Ounas et que vous pénétrez en son sein, c'est un florilège de décoration, de dessins, c'est magnifique. Mais c'est enfoui. Comment se fait donc-il que ces espaces sans lumière, ait été décoré avec un art aussi splendide? Ça c'est vraiment une question que je pose pour nous amener à la réflexion. Regardez par exemple, Je vais laisser répondre un chercheur indépendant, un jeune chercheur indépendant, dont le blog est égyptologue.ch.com, que je vous invite à consulter. Il dit ceci, écoutez. Creusé dans la montagne sur plus de 100 mètres, on ne trouve aucune trace de suie sur les murs ou les plafonds. La suie, c'est lorsque, par exemple, vous allumez un dispositif d'éclairage, tel qu'une bougie, il y a une espèce de graisse qui se dépose sur les parois, c'est ça la suie, voilà. Donc, il dit, on ne trouve aucune trace de suie sur les murs et les plafonds, qui sont tous peints et gravés dans la roche, ni dans les autres tombes richement décorées. Et ça, je suis d'accord avec lui. Ni dans les pyramides, d'ailleurs, ni dans les labyrinthes souterrains. Et il renchérit en disant ceci. Dans la vie courante, on sait qu'ils employaient des lampes à huile ou des torches qui laissaient de nombreux résidus gras de combustion sur les murs et les plafonds. Mais dans les tombeaux de la vallée des rois, notamment, par exemple le tombeau de Séti Ier, pharaon nègre, il faut le dire, creusé dans la montagne sur plus de 100 mètres, imaginez un peu ce que c'est 100 mètres, on ne trouve aucune trace de suie sur les murs ou les plafonds qui sont tous peints et gravés dans la roche, ni dans les autres tombes richement décorées, ni dans les pyramides, ni dans les labyrinthes souterrains. Allô ? Le problème avec la civilisation d'Égypte pharaonique, c'est que ceux qui s'en sont proclamés les découvreurs n'ont pas été toujours capables de produire des théories en cohérence avec leurs arguments. Quand la complexité et l'opacité frappent toujours cette civilisation qui a vu le jour, je le rappelle encore une fois, en Afrique. Il s'ensuit alors diverses théories tout aussi farfelues qu'amusantes sur les Atlantes ou des gens qui sont venus, en tout cas qui seraient venus d'un autre monde. Mais le problème avec Maître Gims, c'est qu'il questionne une vérité bien étrange. Est-ce que ceux qui écrivent l'histoire de l'humanité sont habilités à le faire? Je suis Arleno, commandant de bord de cette mission, et je m'adresse à toi. Le panafricanisme est la philosophie de notre survie. Alors prends soin de toi, car nous sommes le monde. Et je te dis à bientôt de l'autre côté.